Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ? Bah oui, c'est vrai, pourquoi ? S'écrit en un seul mot, mais aussi en deux. Pourquoi pas ? Mais enfin, quelle est la logique ? Pourquoi il pleut ? Pourquoi il fait soleil ? Pourquoi il est mort ? Pourquoi il est méchant ? Pourquoi un chien n'est pas un chat ? Ça suffit.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Voilà donc une question épuisante souvent, mais importante. Pourquoi ? Appliquée à la langue française, Julien Soulier en a fait un livre où il recense une centaine d'interrogations, les pourquoi du français. Bonjour Julien Soulier.
Bonjour.
Ancien prof de lettres classiques, passionné d'orthographe et membre de l'équipe d'experts du projet Voltaire. Pourquoi ce livre ?
Eh bien... Parce que des petits-neveux, des enfants d'anciens élèves me posaient toujours ces questions qui démangent, qui grattent un petit peu. Pourquoi on ne dit pas « je mourirai » ? Vous savez, les enfants, pourquoi on ne dit pas « des chevals », ce qui serait quand même très logique. Voilà, donc je suis parti de questions a priori un peu ingénues, un peu naïves, mais qui, en fait, quand on gratte un petit peu, quand on creuse un petit peu, eh bien, un petit peu en profondeur, on s'aperçoit que ça met en jeu des phénomènes assez profonds et assez anciens dans la langue française, dans l'histoire de la langue française.
Et c'est une belle question que ce « pourquoi », c'est une façon pour les enfants de découvrir le monde, en fait.
Bien sûr, les enfants, quand ils apprennent la langue, ont un côté très logique. On dit bien « je partirai », on dit bien « je bouillirai », on dit bien « je dormirai », et pourquoi tout d'un coup ce « je courrai » et « je mourrai » ? On dit bien « vous mangez, vous dormez », pourquoi tout d'un coup « vous dites et vous faites ». Donc les enfants sont très logiques, et j'aime bien dire, alors un petit peu avec un petit côté un peu provocateur, que c'est la langue qui se trompe et que ce sont les enfants qui ont raison. Mais malheureusement, l'usage a fait que certaines formes se sont imposées. Donc c'est vrai que c'est une question à la fois simple et à la fois très complexe et très intéressante.
Alors je suis tenté de mener cet entretien avec vous, Julien Soulier, simplement avec des pourquoi. Mais ça sera un peu lassant quand même, vous en êtes d'accord ?
Peut-être un petit peu, oui. On va essayer de rendre ça plus, un peu vivant aussi.
On va essayer de rendre ça un peu vivant, d'autant que ces pourquoi sont de tous ordres quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul pourquoi, il y a des pourquoi avec des réponses d'ordre grammatical, phonétique ou syntaxique.
Exactement. Oui, tous les champs de la langue française sont concernés par ces pourquoi.
Alors, est-ce qu'il y a des fois quand même des règles ?
Oui, heureusement. Sinon, ce serait l'anarchie linguistique perpétuelle.
Ce ne sont pas que les exceptions, les pourquoi.
Ce ne sont pas que les exceptions. Non, il y a des règles. Par exemple, l'ordre des mots en français, pourquoi s'est-il constitué le plus souvent sujet, verbe, complément ? Alors qu'en ancien français, l'ordre était plus souple. En latin, l'ordre était souple, il y avait un ordre favori, mais les mots pouvaient être presque dans n'importe quel ordre. Eh bien, en français, à partir du Moyen-Âge et surtout après, effectivement, l'ordre s'est rigidifié autour du sujet, de l'ordre sujet, verbe, complément. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il y a quand même des règles, il n'y a pas que des exceptions, Dieu merci.
Alors, je vais prendre quelques-unes de vos questions ou de vos exemples, Julien Soulier. Pourquoi dit-on le fils de César et un fils à papa ?
Oui, alors c'est vrai qu'on entend souvent encore aujourd'hui, d'ailleurs on aime bien reprendre les gens, hein. Vous savez, quand on trouve qu'il y a des fautes, on a ce côté un petit peu, peut-être pas prétentieux, mais un peu donneur de leçons, on aime bien, on connaît quelque chose sur la langue, donc on aime bien reprendre les gens qui se trompent, et c'est vrai que quand on dit la fille à Pierre,
c'est pas
voilà,
possible,
quand on entend ça,
ça
on se dit, ça nous, enfin pour la plupart des gens, ça les hérisse. Eh bien, il faut savoir que, historiquement, ça n'est pas du tout blâmable, et ce fut même tout à fait correct. Il faut savoir qu'en latin, il y avait très peu de prépositions, ou du moins pour exprimer le fils de César, on n'utilisait pas de prépositions. On utilisait ce qu'on appelle un cas, c'est-à-dire une terminaison spéciale à la fin du mot. Un peu comme l'apostrophe en anglais, si vous connaissez Peter's son, le fils de Peter. Ça marchait un petit peu pareil en latin. Et puis, eh ben, ces cas sont tombés un peu en déliquescence, et on s'est retrouvé à devoir exprimer cette possession. Et là, au Moyen-Âge, il y a eu concurrence entre plusieurs prépositions, notamment, essentiellement, la préposition « à » et la préposition « de ». Et finalement, au bout d'un moment, certains grammairiens ont décidé que ce serait « de » et pas « à ». Mais on a gardé quelques survivances, hein, la bande à Bono, un fils à papa, la bête à bon Dieu, par exemple, pour désigner la coccinelle. Mais le « de » s'est imposé dans tous les cas. Cela dit, on continue à dire « ce livre est à moi ». Donc, on continue à utiliser le « à » dans certains cas.
Donc, toujours plein d'exceptions, quand même.
Toujours quelques exceptions, ou du moins quelques survivances.
Alors, vous êtes quand même très tolérant, Julien Soulier, vis-à-vis de ces fautes, justement, ou de ceux qui feraient ces fautes, car vous rappelez que tout cela est une affaire de temps. On ne parlait pas de la même manière au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, et souvent, des fautes d'aujourd'hui étaient des usages d'hier.
Exactement. Alors, moi, je vais vous faire un aveu, je suis un puriste repenti. J'ai longtemps été un puriste, et puis finalement, et notamment en travaillant sur ce livre, parce que je me suis plongé dans pas mal de livres sur l'histoire de la langue française, et je me suis dit, oui, cette langue française, elle vit, elle bouge, et en effet, ce qui nous semble fautif aujourd'hui, alors effectivement, il faut bien qu'il y ait quelques règles et un usage, mais il faut quand même être, sinon tolérant, du moins compréhensif, et se dire que certaines... ce qu'on considère comme des fautes ou des erreurs aujourd'hui, ce que les linguistes appellent souvent des emplois à la marge, c'est-à-dire des écarts par rapport à une norme, eh bien, ça peut devenir la règle demain. Et c'est ce qui se passe, effectivement, avec pas mal de règles et pas mal de mots orthographiquement, grammaticalement. Tout cela a beaucoup évolué. Et donc, la langue n'est pas figée dans une gangue, elle change. Et donc, en effet, certains termes ou certaines phrases qui pouvaient paraître fautives à l'époque, si tant est que les fautes aient existé à l'époque, ce dont on pourrait discuter, eh bien, aujourd'hui, c'est devenu la norme.
Oui, c'est une invention plutôt du 18e siècle.
Hein, XVIIIe, 19e, la norme avec la bourgeoisie qui impose, l'école aussi qui impose une école républicaine. On commence à imposer l'idée de faute, la dictée, etc. C'est à partir du 19e, tout ça. Hein.
Et ce qui se dit en français académique de France, est-ce qu'il peut être dit autrement dans le monde francophone, par exemple ?
Oui, bien sûr, il y a des choses qui changent. Si on prend le québécois, enfin le français du Québec, bien évidemment, la langue française n'est pas une. Il n'y a pas que le français de France, loin de là, puisque les francophones hors de France sont majoritaires. Donc le français de France est loin d'être majoritaire, mais il a cette espèce de présence académique due notamment au rôle de l'Académie française, au rôle de la norme, qui fait que c'est lui qui impose un petit peu sa norme. Mais bien sûr, il existe d'autres langues françaises.
Alors on va voir ailleurs, justement, c'est notre coup de fil du lundi. Ailleurs aujourd'hui en Roumanie avec Mișna Cîrstoiu. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le recteur de l'Université Polytechnique de Bucarest et vous nous annoncez la création de la Maison de la Francophonie en Roumanie à Bucarest. La première pierre a été posée il y a quelques jours. Alors il va se passer quoi dans cette maison ?
C'est la deuxième maison de la francophonie dans l'Europe, et après Paris bien sûr. Et pour nous, pour un pays francophone, pour une université francophone, c'est important de développer en Roumanie, dans la cité de Polytechnica de Bucarest, la deuxième maison. Nous avons 15 places dans notre campus et un nouveau bâtiment qui est dédié pour l'étudiant francophone.
Donc dans ce nouveau bâtiment dont on a posé la première pierre, il y aura je crois à peu près un peu plus de 300 étudiants du monde francophone qui pourront venir.
Oui, bien sûr. Venir à Bucarest, c'est aussi des espaces pour études, des espaces pour rencontres, des espaces pour avoir différents projets et comme ça. C'est un espace de coworking, c'est des espaces qui sont dédiés pour le monde scientifique francophone en Roumanie.
Et les cours se font et se feront en français ?
Nous avons des filières en anglais, en français, en allemand, mais pour le maison en francophonie, les cours, c'est tout ça en français parce que nous avons une très forte filière francophone dans notre université. En Bucarest aussi, il y a des universités qui prennent des cours en français.
À tous ces étudiants, il faudra donc proposer le livre de Julien Soulier, Les Pourquoi du français. Alors jusqu'à présent, vous l'avez rappelé, monsieur le recteur, seule la France avait une maison de la francophonie, donc ce sera la deuxième à Bucarest. Mais il est vrai que la Roumanie est un pays phare, selon l'OIF. Le lien à la langue française est très fort.
Oui, nous avons dans notre pays beaucoup d'universités et institutions francophones. Nous avons beaucoup de programmes, 75 institutions qui avaient des programmes en français. Et nous avons beaucoup de 160 programmes dans notre université qui sont en langue française. Nous avons beaucoup d'accords avec notre collègue en France, dans le monde francophone en général. Et je suis très heureux parce que je suis membre de le conseil d'administration de l'AOF dans le nom de la région Europe centrale orientale. La Roumanie, c'est un phare important pour la francophonie et continue de développer ses relations avec le monde francophone en général.
L'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui a d'ailleurs fêté son 60e anniversaire à Bucarest en septembre dernier. Merci beaucoup, Michna Coustoiu. Et on vient pour l'inauguration. Vous avez la date ?
L'année prochaine, je crois, j'espère qu'en le mois mai ou juin, nous sommes prêts pour l'inauguration de la maison.
Allez, on prend des billets. Merci encore et salutations aux auditeurs de RFI Roumania.
Merci beaucoup, merci pour votre intérêt. C'est important pour nous parce que la France est ici avec nous. Merci beaucoup.
Enfin guérir de tout ce mal que je lui ai transmis par hasard. Mon âme est enfin guérie de tout ce mal que je lui ai transmis par amour. Le hasard de la vie, mon amour du hasard, le hasard. Mon âme est enfin guérie de tout ce mal que je lui ai transmis sans savoir. Mon âme est enfin à l'abri de ses rafales. Moi aussi je m'en suis sorti comme une fleur de mal. Le hasard de la vie, oh, mon amour du hasard, oh, oh, le hasard de l'amour.
Robert sur RFI et nous sommes passés de la Roumanie au Québec puisque c'est un artiste électro-québécois qui sort un nouvel album avec notamment cette chanson « Hasard » avec un T ou un D, Julien Soulier ?
Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez ? Avec un D, on avec peut s'aider de oui. Hasarder. Hein. C'est un mot qui vient de l'arabe d'ailleurs, qui désigne hasard, qui désigne le jeu de D. C'est un peu le aléa latin, si on
Mais veut. Alors, pourquoi un D et pas un T ? Parce qu'on évoquait tout à l'heure ces mots qui ont bougé entre le 17e, l'ancien français, le 17e, 18e et aujourd'hui. Et il y a plein de mots avec des D qui avaient des T avant, notamment grand.
Oui, grand. Alors là, il faut... grand, effectivement, en ancien français, c'est écrit très longtemps avec un T. Et puis, il y a eu un mouvement à partir de la Renaissance, de ce qu'on appelle de relatinisation du lexique, c'est-à-dire on s'est retourné, on a tourné un petit peu, on a tourné la tête comme ça, et puis on s'est aperçu que quand même le latin et le grec, c'était pas mal à l'époque. Hein. Donc c'est là qu'on redécouvre les grands textes de l'Antiquité. Et donc, on redécouvre aussi l'étymologie latine, l'étymologie grecque, et donc on relatinise le français, on crée énormément de mots. Et s'il en manquait pas mal, on crée énormément de mots à partir de racines latines. Et puis, on relatinise l'orthographe. Donc, on rajoute des lettres. Grand qui s'écrivait G-R-A-N-T, eh bien, se met à prendre un D en souvenir du latin grandis. Voilà, du mot latin. Donc c'est souvent l'influence du latin comme ça qui impose une orthographe ou un terme.
Donc il faut toujours revenir au latin pour éviter les fautes ou pour être très correct ou dans la norme. Ça veut dire qu'il faut être très savant.
Moi, je plaide toujours pour que nos petits Français en sixième aient une heure de latin au moins par semaine. Alors, pas tant pour étudier du Cicéron ou du César que pour faire un lien, en fait, avec la langue qu'ils utilisent tous les jours. Ça, je trouve que ce serait très intéressant et très précieux parce que ça aide pour l'orthographe. Alors, pas toujours, évidemment, mais ça aide pour l'orthographe et surtout, ça aide pour le vocabulaire, pour enrichir son vocabulaire, pour relier avec des racines, même pour d'autres langues. Hein. L'anglais est une langue très latinisée. Donc, faire des rapprochements comme ça avec d'autres langues, quand vous savez, par exemple, que Kaiser en allemand, que le tsar en russe, eh bien, ça vient du mot latin Caesar, donc de César, c'est quand même très intéressant du point de vue lexical, mais aussi du point de vue historique.
Alors, pour comprendre la langue, Julien Soulier, il faut aussi comprendre que l'Académie française, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, a figé un usage. Et dans votre livre, Les Pourquoi du français, il y a plein d'exemples où vous démontrez cela. Par exemple, pourquoi on écrit 80 avec un S à 20 ? Eh bien, c'est la faute à l'Académie.
Oui, alors la faute, je ne sais pas s'ils sont des fautes, mais en tout cas, à sa décharge, il faut bien dire que avant qu'elle n'apparût et avant qu'elle ne mit un petit peu son nez dedans, c'était un petit peu la pagaille quand même. Hein. On faisait peut-être pas ce qu'on veut, mais il y avait quand même un certain désordre dans l'orthographe, dans le lexique et même dans la syntaxe. Et donc, elle a nettoyé un petit peu tout ça. Et elle a peut-être été un petit peu maniaque parfois dans son nettoyage, ce qui fait qu'à certaines époques, il y a eu... Ça a été un petit peu double. Hein. Il y a eu des époques où il y a eu des avancées. Disons, l'Académie a été plutôt progressiste, notamment sous l'abbé d'Olivet, qui fut le précepteur de Voltaire, et qui a créé certaines règles, ou du moins qui a imposé certaines orthographes qui étaient plutôt progressistes. Et puis, la fois d'après, c'était un peu en avant, un peu en arrière. Et la fois d'après, on revenait en arrière, en rajoutant des lettres muettes, en compliquant certains mots. Et toujours ça, évidemment, en se référant au latin ou à une supposée origine latine. Donc, c'est vrai que souvent, ça a été un pas en avant, un pas en arrière. Et l'Académie a eu tendance quand même à être assez conservatrice à certaines époques et donc à figer certaines orthographes, à figer certaines règles, et notamment cet emploi du 80 qui pour nos amis belges, enfin 90 surtout pour nos amis belges et suisses, doivent paraître complètement absurdes. Et même pour nous, quand on réfléchit bien, c'est complètement absurde.
Oui, parce que 80, il y a un S à 20 et 24...
Il n'y en a pas. 90, il n'y en a plus. Alors on a rajouté un S, puis on l'a enlevé, et puis finalement il est resté dans certains cas, mais pas dans d'autres. Mais même l'usage du mot 80, hein, cette existence même de 4 fois 20, c'est quand même une multiplication, alors qu'on ne dit pas 2 20 pour dire 30. Alors, on l'a dit à une époque, si vous reprenez du François Villon et même sous Molière, on avait gardé comme ça, surtout par humour, certaines tournures. Dans Molière, on trouve « vous passerez les 6 20 » pour dire « vous passerez les 120 ans ». Donc, on retrouve encore ce genre de ce qu'on appelle le système vicésimal, c'est-à-dire à base 20, mais c'est le système décimal à base 10 qui s'est imposé et on a conservé 80, 90, sauf évidemment chez les Belges et les Suisses qui ont été beaucoup plus logiques que nous.
Donc, aucune logique dans la langue française et un conseil à prendre votre livre par cœur.
Aucune logique. J'irai pas jusque-là. En revanche, à prendre mon livre par cœur, oui, pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne idée.
Alors, la France est un pays de grammairiens, dites-vous, Julien Soulier. Et s'il y a un sport national qui donne lieu même à des retransmissions télé, c'est la dictée. Dans les années 90, cette dictée était dirigée et corrigée d'ailleurs par le monsieur littérature de la télé française, Bernard Pivot.
Quand le corps crie famine et que les leitmotivs de la faim surgissent continuellement. Alors normalement, on devrait prononcer les leitmotifs. Mais enfin, là, c'était encore égaré un peu plus les concurrents, donc j'ai préféré dire les leitmotifs. Micheline Semant, vous pouvez nous expliquer le pluriel bizarre de leitmotiv.
Leitmotiv vient d'un mot allemand dont le pluriel est leitmotiv, I-V-E. Mais ce pluriel n'a pas suffi en français, il faut le croire, puisqu'on l'a francisé. Et on autorise également leitmotiv, V-S à la fin. Donc deux pluriels étaient autorisés pour leitmotiv.
Donc 46% des concurrents ont commis la faute et 32% ont commis la faute sur continuellement, c'est-à-dire qu'il fallait mettre un accent circonflexe.
Pivot, sa grammaire et ses statistiques, et puis toujours les mêmes problèmes, ces histoires d'accent. Je suis sûr que vous avez fait des dictées, Julien Soulier, parce que dans les années 90, vous étiez vraiment sur les bancs de l'école.
Oui, j'ai participé à tous les dicodors à l'époque.
À tous les dicodors,
ouais, j'ai participé à tous les dicodors jusqu'à la fin.
Et vous étiez bon ?
Oui, l'avant-dernière année, je suis allé en finale. Alors, j'étais en professionnel puisque j'étais professeur d'art classique. Donc, j'ai participé à la finale à la mairie de Paris à l'époque.
Donc, on peut retrouver des archives.
On peut retrouver des archives. J'ai pas brillé en finale, mais j'étais content parce que je crois que j'ai été le plus jeune finaliste dans la catégorie professionnelle.
Alors, Pivot évoque l'accent circonflexe sur continuement, qui n'est pas non plus un mot qu'on utilise tous les jours. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème, ça, la question des accents. Parce qu'il y a le circonflexe, mais il y a aussi l'accent aigu ou l'accent grave. Et pour quelqu'un comme moi qui vient du Sud, imaginez le casse-tête.
Oui, alors les accents, il faut savoir qu'ils n'existent en gros que depuis le 15e, 16e siècle. Et encore, ça a été là encore un petit peu la pagaille avant que leur usage ne soit bien fixé. Mais le problème est venu tout simplement du fait qu'en latin, le E, par exemple, ne se prononçait toujours E. Donc il n'y avait qu'un seul son. Et avec l'évolution, avec la disparition du latin, en ancien français, on s'est retrouvé avec quatre E possibles. Qui se prononçaient différemment. Donc en gros, l'équation était simple, c'était une lettre pour quatre sons. Comment fait-on ? Et c'est là que des imprimeurs, des humanistes de la Renaissance ont eu l'idée de créer, de marquer ces différences par des accents. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec l'accent aigu pour le « e », l'accent grave pour le « e », donc le « e » ouvert, et puis l'accent circonflexe un petit peu différent. Mais ça a permis déjà de distinguer le « e », le « e », le « e » et le « e », voilà, ces deux accents ont déjà permis de distinguer deux de ces quatre sons. Voilà, donc c'est vraiment une idée pratique presque, hein, c'est une contrainte technique. C'est-à-dire, comment l'orthographe peut-elle rendre compte de la phonétique ?
Mais reconnaissez quand même que pour des jeunes apprenants, c'est quand même un peu complexe, cette question des accents.
Oui, oui, c'est assez complexe. Même pour de vieux apprenants, même pour des adultes, c'est vrai que c'est souvent complexe. On voit souvent des erreurs. Par exemple, exercice, on voit souvent un accent sur le premier E, alors que le X, justement, comme c'est une consonne double, empêche normalement l'accent. Enfin, voilà, il y a des règles comme ça qui sont un petit peu, peut-être un petit peu tarabiscotées et qui, effectivement, occasionnent pas mal de difficultés chez les apprenants et j'imagine aussi chez les non-francophones qui apprennent le français.
Alors, on évoquait Pivot, mais la dictée et des concours d'orthographe... C'est en fait un peu partout dans le monde, ça n'est pas une spécificité française. Et on va déambuler au Burkina Faso, où il y a quelques années, existait un concours appelé, avec deux P, hein, appelé « Épelle-moi » avec un seul P. Alors, je ne sais pas s'il existe encore, mais les auditeurs ou internautes burkinabés vont nous envoyer l'info. Ça donne ça.
Donne-nous le numéro au micro.
Numéro 83.
Pour Arnold, le mot est « déambulation ».
Déambulation.
Déambulation s'écrit D, E accent aigu, A, N, B, U, L, A, T, I, O, N, S.
Orthographe
incorrecte.
Déambulation s'écrit D, E accent aigu, A, M, B, U, L, A, T, I, O, N. Déambulation.
Numéro
60. 60. Alors, pour toi, Alimata, le mot, c'est circonspect.
C-I-R-C-O-N-S-P-E-C-T.
Correct. Correct.
Vous voyez la complexité, Julien Soulier, français ou non français, burkinabé ou français, c'est toujours la même histoire. Et ils sont très bons, hein, là, les gamins. Ils sont plutôt,
oui, parce que les mots n'étaient pas faciles.
Les mots n'étaient pas faciles. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même penser à une... Alors, j'ose à peine prononcer le mot. Une réforme de l'orthographe.
Disons-le à voix basse.
Disons-le à voix basse pour qu'on ne nous entende pas, que tous ceux qui...
Le problème, c'est qu'il y en a eu. Il y a eu des tentatives à différentes époques. La dernière remonte à 1990. Elle a concerné 2400 mots, donc notamment le fameux « oignon » qu'on peut maintenant écrire, même si ça pique un peu les yeux pour les vieux que nous sommes, qu'on peut écrire phonétiquement.
Ah bah vous me rajeunissez, c'est sympa.
qu'on peut écrire « O-G-N-O-N ». Donc c'est vrai, quand on a appris comme ça, c'est quand on a appris avec le « i », qui est pourtant absurde, hein, mais quand on a appris avec ce « i », c'est un petit peu étonnant. Donc il y a bien eu une réforme en 90. Alors moi, je vais vous dire, j'ai un côté, je devrais peut-être garder ces confidences pour un psy, mais j'ai un côté un peu schizophrène. À la fois, alors du côté cœur, je me dis, ah, c'est ce qui fait un peu son charme quand même à cette langue française, d'avoir des petites particularités comme ça, des petites irrégularités, qui justement nous invitent à raconter son histoire, à chercher dans son histoire. Et puis de l'autre, j'ai le côté un peu linguiste qui me dit, oui, quand on apprend une langue, c'est très compliqué d'apprendre toutes ces choses-là. Et finalement, ont-elles vraiment un intérêt pour parler la langue. Voilà, donc il y a ces deux Julien Soulier en moi qui se partagent, qui se combattent, et j'ai du mal à choisir.
En tout cas, pour la réforme de l'orthographe, c'est une guerre de tranchées chaque fois qu'elle est évoquée, et ce depuis des décennies. Donc il n'y a pas du tout de bonhomie avec un seul M dans cette histoire-là, quand bonhomme en prend deux.
Oui, hein, alors maintenant on peut l'écrire avec deux M, bonhomie, depuis 1990.
Ah bah voilà, voilà un progrès. Le passé simple, on se dit deux mots sur le passé simple, parce que vous-même vous le dites, c'est pas simple. Hein.
Non, le passé simple n'est pas simple du tout. Non, c'est un faux ami. Alors, moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'affection pour ces temps un petit peu obsolètes. J'appelle ça les zombies de la conjugaison. Donc, le passé simple, le subjonctif imparfait, a fortiori. Donc, c'est un temps qui a pâti, en fait, d'être mal fichu, si vous me passez l'expression, dès le début. Hein, il venait d'un temps latin qui était très classique et pas très difficile à conjuguer. Et puis, il y a eu, en raison d'évolution phonétique un petit peu difficile à expliquer, mais il y a eu pas mal d'évolutions. Et en ancien français, c'était vraiment une pagaille pas possible. Donc, ça a été un petit peu régularisé. Mais on se retrouve comme ça avec un temps, avec ces terminaisons, nous chantâmes, vous chantâtes, qui sont un petit peu étranges. Et malheureusement, il a tendance à disparaître, sinon dans la narration. À l'oral, hein, on ne dit pas que fîtes-vous hier, allez-vous au restaurant ou restez-vous à la maison à regarder une série.
C'est chic quand même.
Ce serait chic. Moi, j'aimerais beaucoup, mais si vous voulez garder quelques relations sociales, ça risque d'être un peu compliqué.
Pourtant, c'est le temps des contes, le passé simple. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Oui, ben oui, c'est pour ça que c'est très dommage de le perdre. C'est un temps magnifique et c'est un temps qui a tendance à être battu en brèche par ce que j'appelle ce lourdeau de passé composé, parce que lui, il a deux morceaux. Il y a l'auxiliaire, il y a le participe passé. En plus, le participe passé, il faut savoir l'accorder. Donc, je ne suis pas sûr que l'éviction du passé simple par le passé composé soit une avancée. Mais bon.
En tout cas, pour les enfants, il y a les contes, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants à une époque où les femmes, justement, procréaient énormément, même si ce n'était pas toujours dans la joie. Mais il y a aussi les comptines, qui sont parfois des prouesses grammaticales.
Il était une fois une marchande de foin qui vendait du foin dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foin dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi,
en entendant ça, vous m'avez dit « Ah, bah oui, bien sûr !»
Et oui, bien sûr, les homonymes.
Les homonymes.
Que serait la langue française sans les homonymes ?
Parce que là, il y a « foi », l'organe avec un « e », il était une fois avec un « s », il y a « ville de foi » avec un « x », et puis il y a la « foi » dans le bon Dieu,
F-O-I.
Vous me disiez la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour parler du projet Voltaire, Julien Soulier, que le français est justement la langue où il y a le plus d'homonymie.
Oui, alors sous réserve, évidemment, de langues que je ne connaîtrais pas, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Mais c'est vrai. Alors, il y en a pas mal en anglais quand même. On oublie souvent l'anglais. On a souvent tendance à croire que l'anglais est facile. Mais l'orthographe anglaise est presque aussi retorse que l'orthographe française. Il y a énormément de sons, de lettres muettes et pas mal d'homonymes. Mais c'est vrai que je pense que le français en contient encore plus que l'anglais. C'est ce qui fait aussi sa richesse. Si vous prenez les sketchs de Raymond Devos, s'il n'y avait pas d'homonyme, il n'y aurait pas de sketch de Raymond Devos. Le fameux verbe ouïr, hein, par oui dire, ce que oua, loi de Louis, elle oua ce que tout oua. Voilà, donc s'il n'y avait pas ça, on aurait beaucoup moins de comptines, on aurait moins de sketchs, on aurait moins de quiproquos, de jeux de mots. Ce serait quand même dommage.
Donc vous dites que c'est un pays de grammairiens, la France, retors mais malin.
Oui, bah, disons qu'il a fait peut-être d'une faiblesse une force, qui a transformé, qui a transcendé un petit peu ses faiblesses ou ses difficultés en faisant un jeu, éventuellement les jeux de mots, en faisant une force dans la poésie. Vous pouvez travailler sur les homonymes, il y a énormément de poètes qui travaillent sur des rimes avec des homonymes. Vous avez ce qu'on appelle les holorimes, c'est-à-dire des vers entiers qui sont formés de rimes.
Parce que tout ce qui est simple peut être compliqué dans la langue française. Et votre dernier exemple dans ce livre, le pourquoi des Français, c'est le « on ». Et vous nous expliquez que le « on » est l'un des mots les plus complexes de la langue.
Oui, alors déjà étymologiquement, il faut savoir que c'est le doublet de « homme », c'est-à-dire ça vient de « homo ». Donc déjà ça, hein, savoir que « homo » et « homme », « on » et « homme », c'est la même origine, déjà c'est intéressant. Et puis ces emplois sont d'une richesse incroyable. Alors bonjour mon petit monsieur, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui ? au lieu de dire qu'est-ce que vous allez prendre avec ce côté un petit peu familier, un petit peu affectueux. Le « on » évidemment quotidien, c'est-à-dire nous, qui est familier. Alors, on va au cinéma ce soir ou on reste à la maison. Et puis, plein d'autres emplois, hein, « on » pour dire « je », pour cacher le « je ». Donc, c'est un mot qui est à la fois trouble, c'est le « on » de la rumeur aussi. Donc, y a,
on dit.
On dit, voilà, les « on dit », on dit bien ça, les « on dit ». Donc, il y a énormément d'emplois à ce « on » qui font effectivement une espèce de polysémie comme ça, de polyphonie même du « on » qui est d'une richesse incroyable.
Et comme vous l'écrivez, on n'est pas sorti de l'auberge.
Exactement.
Merci Julien Soulier.
Merci.
Les Pourquoi du français est édité chez First Edition. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, David Brocouet à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr et sur Facebook.